Le roman des poètes, l'émission vagabonde de la BIP. Si la poésie ne vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Si la poesía no te ayuda a vivir, hace otra cosa.
If poetry doesn't help you to live, then do something else.
Se la poesía no te ayuda a vivir, allora fate qualcos'altro.
Shiri e Shamzayar non giungono, basta che
L'émission quinzomadaire de la BIP, brigade d'intervention poétique, Michel Armatz et compagnie. Une émission pour raconter la vie des grands poètes, connus ou pas connus.
Lukuni Zhengwei Shige, Punan Zhang Shenguo Guan Jintai, Nacho Ting Wengli Shige.
Ha a költészet nem éltet, fordulj más felé.
Avec au gré des émissions, les voix de Charo Beltran, Thérèse Bonetta, Cécile Combredet, Florence Mourieras et messieurs Christian Boisson, Jean-Claude César, Yves Flanck, Julien Gill, Marc Pastor, Patrick Vendrin et Michel Arbatz.
Si la poésie vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Il y a dans l'être quelque chose de particulièrement tentant pour l'homme. Et ce quelque chose est justement le caca! Pour exister, il suffit de se laisser aller à être. Mais pour vivre, il faut être quelqu'un. Pour être quelqu'un, il faut avoir un os. Ne pas avoir peur de montrer l'os et de perdre la viande en passant. L'homme a toujours mieux aimé la viande que la terre des os. C'est qu'il n'y avait que de la terre et du bras d'os. Et il lui a fallu gagner sa viande. Il n'y avait que du fer et du feu, et pas de merde. Et l'homme a eu peur de perdre la merde. Ou plutôt, il a désiré la merde. Et pour cela, sacrifié le sang. Pour avoir de la merde, c'est-à-dire de la viande, là où il n'y avait que du sang et de la ferraille d'ossement, et où il n'y avait pas à gagner d'être, mais où il n'y avait qu'à perdre la vie. Oresh modo, t'aurais dire, Isa, Akari, t'opparera coco. Là, l'homme s'est retiré et il a fui. Alors les bêtes l'ont mangé. Ce ne fut pas un viol. Il s'est prêté à l'obscène repas. Il y a trouvé du goût. Il a appris lui-même à faire la bête et à manger le rat délicatement. Et d'où vient cette abjection de saleté? De ce que le monde n'est pas encore constitué, ou de ce que l'homme n'a qu'une petite idée du monde et qu'il veut éternellement la garder.
En voilà une entrée pour une émission. C'était la voix d'Antonin Artaud à qui on consacre 2 heures d'enregistrement avec... Ici, avec la participation de tous les élèves de licence 2 de théâtre à la faculté Paul-Valéry de Montpellier, nous sommes dans la salle de répétition de la Vignette. Cette émission est réalisée avec le partenariat de Radio Campus Montpellier. Et pour prouver à nos auditeurs que je ne suis pas seul dans un studio, je vous demanderai de vous manifester et de dire que vous êtes là. Merci. Ça n'est pas une mince affaire que de présenter Antonin Artaud, donc poète, auteur, dramaturge, acteur, peintre. C'est une vie énorme à raconter. On a passé 40 heures étalées sur 2-3 mois avec ce groupe d'étudiants. Donc il va vous interpréter des textes, qui va vous parler de la vie d'Artaud. Les textes sur lesquels on s'est appuyé, les textes biographiques, c'est essentiellement les textes de Paul Thévenin, Antonin Artaud, ce désespéré qui vous parle. La très grosse biographie de Florence Merredieu, également le quarto qui est publié chez Gallimard, qui a été établi, je crois, par Evelyne Grossman.
C'est ça, oui.
Voilà, également, alors je dois dire qu'à mes côtés, j'ai aussi Christian Boisson qui m'a assisté fidèlement et patiemment au don de tout ce travail. Et pour les musiques, eh bien, on a essayé de faire un choix de musique qui était un petit peu axé sur les choses qui étaient contemporaines d'Artaud, ou du moins qui pouvaient rappeler des choses dans son esprit. Voilà. Donc on va parler un petit peu de la vie d'Artaud, de sa naissance d'abord à Marseille, le 4 septembre 1896. Et cette date a une certaine importance parce que c'est un multiple de 4. Il est né au 15 rue du Jardin des Plantes, et lui dira toujours 4 rue du Jardin des Plantes parce qu'il a une espèce de fascination pour les chiffres. Il naît dans un milieu relativement aisé.
Ses parents, milieu bourgeois.
Un milieu bourgeois, on peut dire. Oui. Son père est à la tête d'une compagnie de navigation maritime qui fait du commerce avec la Grèce, avec Smyrne, dont d'ailleurs toute une partie de la famille est originaire. La mère s'appelle Nalpas, Euphrasie Nalpas. Et d'ailleurs, le mariage des parents est un mariage quasiment consanguin, puisque Euphrasie est cousine germaine d'Antoine Roy. Ça n'est pas mince affaire d'avoir un père qui s'appelle Antoine Roy quand on s'appelle soi-même Antoine, Antonin, Artaud. Et d'ailleurs, les trois petits prénoms d'Antonin, c'est Antonin, Marie, Joseph, ce qui nous donne aussi une indication sur le caractère très, très pieux de cette famille. Donc, Antonin naît...
Éducation oui. religieuse chez les frères maristes. Hein.
Absolument, donc, chez les frères
les
du Sacré-Cœur.
Les traces vont perdurer tout au long de la vie d'Artaud.
Voilà, donc le petit Antonin va assister, enfin être baigné dans les rituels catholiques. Il va faire sa communion et il est éduqué dans le rituel, les messes, tous les grands événements qui marquent la vie catholique. On dit, alors c'est une chose qui n'est pas vraiment avérée, en tout cas, il a une méningite à 4 ans et demi ou 5 ans et qui est le début de toute cette vie, on va dire... de souffrance et de lutte contre la maladie mentale. Il est excellent élève chez les frères maristes. Il a quelques grands chocs qui vont marquer son enfance, qui sont d'abord la mort de sa petite sœur Germaine, maltraitée, semble-t-il, par une bonne, et qui meurt des suites d'une chute.
Elle décède à 8 mois, oui.
Elle décède à 8 mois.
C'est un drame hein, pour Antonin.
Oui, et puis il y a aussi beaucoup d'enfants morts-nés dans cette famille. La mortalité infantile est très importante à l'époque. Et il y a beaucoup d'enfants dont on ne parle pas qui sont morts-nés entre la naissance d'Antonin et celle de son frère Fernand, qui sont cadets de 7 ans. Le petit Antonin, donc, il est bercé dans la langue grecque. Sa grand-mère, Nénéka, vient souvent à Marseille. On parle grec aussi à la maison. Il va souvent à Smyrne lui rendre visite. On peut dire que ça n'est peut-être pas étranger à cet amour de la langue et à cette espèce de fantaisie qui va apparaître au fur et à mesure dans sa vie.
Un amour de la langue qui va se traduire plus particulièrement par des compétences sonores, on va dire ça comme ça, on le verra au cours de l'émission, mais c'est surtout ça qui va rester chez Artaud. Il ne va pas parler le grec, il sera très attiré par le latin, ce sont les sons, c'est ce que la langue peut avoir de physique qui va l'intéresser.
Voilà, peut-être qu'on peut tout de suite, on a retracé le portrait de cette famille, eh bien donner la parole à Artaud. En disant qu'il a été constamment en lutte contre trois éléments dans sa vie qui sont la famille, la religion et la maladie, et disons la médecine.
Moi, Antonin Artaud, je suis mon fils, mon père, ma mère et moi. Niveleur du périple imbécile où s'enferme l'engendrement. Le périple papa-maman et l'enfant. Suis du cul de la grand-maman. Beaucoup plus que du père-mère. Ce qui veut dire qu'avant maman et papa, qui n'avaient ni père ni mère, dit-on, et où donc les auraient-ils pris, eux, quand ils devinrent ce conjoint unique, que ni l'épouse ni l'époux n'a pu voir assis ou debout, avant cet improbable trou que l'esprit se cherche pour nous, dégoûter un peu plus de nous. Était-ce ce corps inemployable, fait de viande et de sperme fou, ce corps pendu d'avant l'époux, suant de l'impossible table, du ciel, son odeur calleuse d'atomes, sa rogomeuse odeur d'abject, détritus, éjecté du somme, de l'inca mutilé des doigts, qui pour idée avait un bras, mais n'avait de main qu'une paume, morte d'avoir perdu ses doigts, à force de tuer des rois.
Une sensation de brûlure acide dans les membres, des muscles tordus et comme à vif, le sentiment d'être en verre et brisable, une peur, une rétraction devant le mouvement et le bruit. Un désarroi inconscient de la marche, des gestes, des mouvements. Une volonté perpétuellement tendue pour les gestes les plus simples. Le renoncement aux gestes simples. Une fatigue renversante et centrale, une espèce de fatigue aspirante. Les mouvements à recomposer, une espèce de fatigue de mort, de la fatigue d'esprit pour une application de la tension musculaire la plus simple. Le geste de prendre, de s'accrocher inconsciemment à quelque chose, à soutenir par une volonté appliquée. Une fatigue de commencement du monde, la sensation de son corps à porter, un sentiment de fragilité incroyable et qui devient une brisante douleur. Un état d'engourdissement douloureux, une espèce d'engourdissement localisé à la peau qui n'interdit aucun mouvement mais change le sentiment interne d'un membre et donne à la simple station verticale le prix d'un effort victorieux. Une espèce de rupture intérieure de la correspondance de tous les nerfs. Un vertige mouvant, une espèce d'éblouissement oblique qui accompagne tout effort, une coagulation de chaleur qui enserre toute l'étendue du crâne ou s'y découpe par morceaux, des plaques de chaleur qui se déplacent. Une exacerbation douloureuse du crâne, une coupante pression des nerfs, la nuque acharnée à souffrir, des tempes qui se vitrifient ou se marbrent, une tête piétinée de chevaux. Mais leur ordre logique aussi quelquefois est rompu à cause justement de leur manque de relents affectifs. Les mots pourrissent à l'appel inconscient du cerveau, tous les mots pour n'importe quelle opération mentale, et surtout celles qui touchent aux ressorts les plus habituels, les plus actifs de l'esprit.
Il me manque une concordance des mots avec la minute de mes états. Mais c'est normal. Mais à tout le monde, il manque des mots. Mais vous êtes trop difficile avec vous-même. Mais à vous entendre, il n'y paraît pas. Vous êtes des cons. Depuis l'intelligent jusqu'au mince, depuis le perçant jusqu'à l'induré, vous êtes des cons. Je veux dire que vous êtes des chiens. Je veux dire que vous aboyez au dehors, que vous vous acharnez à ne pas comprendre. Je me connais, et cela me suffit, et cela doit suffire. Je me connais parce que je m'assiste, j'assiste à Antonin Artaud. À chacun des stades de ma mécanique pensante, il y a des trous, des arrêts. Je ne veux pas dire, comprenez-moi bien, dans le temps. Je veux dire dans une certaine sorte d'espace. Je me comprends. Je ne veux pas dire une pensée en longueur, une pensée en durée de pensée. Je veux dire une pensée, une seule. Et attrape. Je me considère dans ma minutie. Je mets le doigt sur le point précis de la faille, du glissement inavoué. Car l'esprit est plus reptilien que vous-même, messieurs. Il se dérobe comme les serpents. Il se dérobe jusqu'à attenter à nos langues. Je veux dire à les laisser en suspens. Je me perds dans ma pensée, en vérité, comme on rêve. Comme on rentre subitement dans sa pensée. Je suis celui qui connaît les recoins de la perte.
Thank you.
Voilà, sur cet extrait de Edgar Varèse, on reprend le cours de la biographie d'Antonin Artaud. On n'a pas signalé dans le premier micro qu'il est déjà tout petit, sujet à des crises de colère. Il souffre de tics un petit peu et il va être marqué l'année 1914. Donc il a à ce moment-là 17 ans, enfin un peu plus, enfin 18 ans. Ça va être sa première grande crise de neurasthénie qui va en même temps que la déclaration de guerre. Sa famille l'emmène consulter d'ailleurs le professeur Grasset qui est grand psychiatre qui vit à Montpellier. Et du coup, il ne peut pas passer la seconde partie du bac à cause de cette dépression. Alors, il fait également allusion dans sa vie à un épisode violent qu'il aurait subi sur le port de Marseille, où il aurait été agressé à coups de couteau par deux souteneurs. Bon, chose qui n'a jamais été avérée, mais effectivement, dans des rapports médicaux sur Artaud, on relève qu'il a, sous les omoplates et près de la colonne vertébrale, deux grandes cicatrices. Il a auparavant eu beaucoup de crises avec sa mère. Enfin, il a des crises dont il se repent avec beaucoup de culpabilité. Il dit même mauvaise conduite. On ne sait pas en quoi exactement consiste cette mauvaise conduite, mais il a un côté explosif qu'il n'arrive pas à dominer. Il aime bien aussi déjà le théâtre d'une certaine manière, puisqu'il s'amuse à faire des mises en scène un petit peu macabres. Il s'amuse à terroriser, par exemple, son cousin. Il a un cousin qui est en classe avec Marcel Pagnol à Marseille, d'ailleurs qui lui permettra d'écrire, de publier ses premiers poèmes. Et il s'amuse à terroriser un peu son petit monde familial en préparant des mises en scène avec des crânes éclairés par des...
Mises en scène macabres.
Hein, mises en scène macabres, oui. Voilà. Et bon, en même temps, il commence une vie très difficile. Il va fréquenter uniquement ce qu'on appelle des maisons de santé à l'époque, qui ne sont pas vraiment des asiles psychiatriques, mais qui sont des sortes de maisons de repos dans lesquelles on pratique surtout les bains, des soins, un peu d'art-thérapie, des choses comme ça. Il ne faut pas oublier qu'Artaud vient d'une famille très bourgeoise, donc il peut lui payer des séjours dans ces maisons où, bon, là, il faut bien le dire, la psychiatrie pédale un peu, n'a pas de mots pour définir le mal d'Antonin Artaud. Et il a quand même la chance d'être tout le temps traité par des médecins qui sont très proches des artistes. Tous les médecins qui ont approché Artaud étaient des gens qui étaient très lettrés, intéressés par la littérature et également intéressés par Artaud, parce qu'ils avaient bien, ils sentaient bien qu'ils avaient affaire à quelqu'un.
Ce qui n'aura jamais empêché sa férocité remarquable et totale vis-à-vis du monde médical.
Voilà, il a une attitude très ambiguë, c'est-à-dire qu'il passe son temps à cracher sur les psychiatres et les médecins, et en même temps, il a des rapports, c'est eux ont avec lui des rapports quasi de protecteurs, quoi, voire de mécènes parfois. Il va entamer un séjour dans des tas de maisons de santé, comme on dit, donc ici dans le Gard, à Mézieux, près de Lyon, et longtemps à la fin au Chanet, à Neuchâtel, en Suisse, où il commence à avoir vent du théâtre, parce que les Pitof sont en Suisse, et que lui, il a vent un petit peu de ce qu'ils font. On ne sait pas s'il a assisté à cette époque-là à des représentations des Pitof, mais il suit leur travail et il peint. Il commence à peindre de façon très intensive dès cette époque-là. Il peint, il a aussi, il faut le dire, la connaissance de ce que c'est que la toxicomanie, puisque dans ces maisons de santé sont beaucoup de gens addicts au laudanum et à autres substances psychotropes.
Le laudanum le suivra toute sa vie.
Voilà.
Par ailleurs, hein.
Absolument.
C'est un grand consommateur.
La cocaïne, le chloral, voilà. L'opium, etc. Enfin, il sera tout le temps addict malgré des tentatives sauvages de désintoxication. Ce qui est important à dire aussi, c'est qu'il a un très bref épisode de casernement, puisqu'il est réquisitionné en 1916 pour la guerre. Il est très vite réformé, soi-disant pour somnambulisme. Il est recommandé par le docteur Dardel qui le suit, parce qu'il a manifesté le désir de faire une carrière artistique et littéraire, à un autre docteur qui est le docteur Toulouse, et il va venir s'installer à Paris. Et oui, c'est là que commence sa grande aventure d'artiste.
Et sa rencontre avec les surréalistes, peu à peu.
L'écriture est de la cochonnerie. Les gens qui sortent du vague pour essayer de préciser quoi que ce soit de ce qui se passe dans leur pensée sont des cochons. toute la gente littéraire est cochonne, et spécialement celle de ce temps-ci. Tous ceux qui ont des points de repère dans l'esprit, je veux dire d'un certain côté de la tête, sur des emplacements bien localisés de leur cerveau, tous ceux qui sont maîtres de leur langue, tous ceux pour qui les mots ont un sens, tous ceux pour qui il existe des attitudes dans l'âme et des courants dans la pensée, ceux qui sont esprits de l'époque et qui ont nommé ces courants de pensée, je pense à leur besogne précise et à ce grincement d'automate que rend à tout vent leur esprit. Sont des cochons. Ceux pour qui certains mots ont un sens et certaines manières d'être, ceux qui font si bien des façons, ceux pour qui les sentiments ont des classes et qui discutent sur un degré quelconque de leur hilarante classification, ceux qui croient encore à des termes, ceux qui remuent des idéologies ayant pris rang dans l'époque, ceux dont les femmes parlent si bien et ces femmes aussi qui parlent si bien et qui parlent des courants de l'époque, ceux qui croient encore à des orientations de l'esprit, ceux qui suivent des voix, qui agitent des noms, qui font crier les pages des livres, ceux-là sont les pires cochons. Vous êtes bien gratuit, jeune homme. Non, je pense à des critiques barbues. Et je vous l'ai dit, pas d'œuvre, pas de langue, pas de parole, pas d'esprit, rien. Rien, sinon un beau pèse-nerf. Une sorte de station incompréhensible et toute droit au milieu de tout dans l'esprit. Et n'espérez pas que je vous nomme ce tout en combien de parties se divise et que je vous dise son poids, que je marche, que je me mette à discuter sur ce tout et que discutant, je me perde et que je me mette ainsi sans le savoir à penser.
Ah, ces états qu'on ne nomme jamais, ces situations éminentes d'âme, ah, ces intervalles d'esprit, ah, ces minuscules ratés qui sont le pain quotidien de mes heures, ah, ce peuple fourmillant de données. Ce sont toujours les mêmes mots qui me servent, et vraiment, je n'ai pas l'air de beaucoup bouger dans ma pensée. Mais j'y bouge plus que vous, en réalité. Barbe d'âne, cochon pertinent, maître du faux verbe, trousseur de portraits, feuilletoniste, rez-de-chaussée, herbagiste, entomologiste, plaie de ma langue. Je vous l'ai dit que je n'ai plus ma langue. Ce n'est pas une raison pour que vous persistiez, pour que vous vous obstiniez dans la langue. Allons, je serai compris dans 10 ans par les gens qui feront aujourd'hui ce que vous faites. Alors on connaîtra mes geysers, on verra mes glaces, on aura appris à dénaturer mes poisons, on décèlera mes jeux d'âme. Alors on comprendra pourquoi mon esprit n'est pas là. Alors on verra toutes les langues tarir, tous les esprits se dessécher, toutes les langues se racornir. Les figures humaines s'aplatiront, se dégonfleront comme aspirées par des ventouses desséchantes. Et cette lubrifiante membrane continuera à flotter dans l'air, cette membrane lubrifiante et caustique, cette membrane à 2 épaisseurs, à multiples degrés, à un infini de lézardes, cette mélancolique et vitreuse membrane, mais si sensible, si pertinente elle aussi, si capable de se multiplier, de se dédoubler, de se retourner avec son miroitement de lézardes, de sens, de stupéfiants, d'irrigations pénétrantes et vireuses. Alors tout ceci sera trouvé bien. Et je n'aurai plus besoin de parler.
Antonin Artaud à Jacques Rivière. Paris, janvier 1924. Monsieur, vous êtes en droit de m'avoir oublié. Je vous avais fait dans le courant de mai dernier une petite confession mentale. Et je vous avais posé une question. Cette confession, voulez-vous me permettre de la compléter aujourd'hui, de la reprendre, d'aller jusqu'au bout de moi-même? Je ne cherche pas à me justifier à vos yeux. Il m'importe peu d'avoir l'air d'exister en face de qui que ce soit. J'ai pour me guérir du jugement des autres toute la distance qui me sépare de moi. Ne voyez dans ceci, je vous prie, nulle insolence, mais l'aveu très fidèle, l'exposition pénible d'un douloureux état de pensée. De votre réponse, je vous en ai voulu pendant longtemps. Je m'étais donné à vous comme un cas mental, une véritable anomalie psychique, et vous me répondiez par un jugement littéraire sur des poèmes auxquels je ne tenais pas, auxquels je ne pouvais pas tenir. Je me flattais de n'avoir pas été compris de vous. Je m'aperçois aujourd'hui que je n'avais peut-être pas été assez explicite, et cela encore, pardonnez-le-moi. Je m'étais imaginé vous retenir, sinon par le précieux de mes vers, du moins par la rareté de certains phénomènes d'ordre intellectuel, qui faisaient que justement ces vers n'étaient pas, ne pouvaient pas être autres, alors que j'avais en moi justement de quoi les amener à l'extrême bout de la perfection. Affirmation vaniteuse, j'exagère, mais à dessein. Ma question était peut-être en effet spécieuse, mais c'est à vous que je la posais, à vous et à nul autre. À cause de la sensibilité extrême, de la pénétration presque maladive de votre esprit. Je me flattais de vous apporter un cas mental, caractérisé et curieux, comme je vous pensais, de toute déformation mentale, de tous les obstacles destructeurs de la pensée. Je pensais du même coup attirer votre attention sur la valeur réelle, la valeur initiale de ma pensée. Cet éparpillement de mes poèmes, ces vices de forme, ce fléchissement constant de ma pensée, il faut l'attribuer non pas à un manque d'exercice, de possession de l'instrument que je maniais, de développement intellectuel, mais à un effondrement central de l'âme, à une espèce d'érosion essentielle à la fois et fugace de la pensée. Il y a donc un quelque chose qui détruit ma pensée, un quelque chose qui ne m'empêche pas d'être ce que je pourrais être, mais qui me laisse, si je puis dire, en suspens, hein, quelque chose de furtif, qui m'enlève les mots que j'ai trouvés, qui diminue ma tension mentale, qui détruit au fur et à mesure dans sa substance la masse de ma pensée. Je n'insiste pas. Je n'ai pas à décrire mon état. J'en voudrais dire seulement assez pour être enfin compris et cru de vous. Et donc, faites-moi crédit.
Comme nous vous le disions tout à l'heure, Antonin Artaud a décidé de s'installer à Paris au début des années 20. Alors ces années 20, qu'est-ce que c'est? De toute façon, c'est la fin de l'après-guerre, de la Première Guerre mondiale, où la France sort détruite. Et justement, ces années 20, c'est le moment où la France commence à regagner une économie stable et où tous les artistes des quatre coins du monde viennent s'installer à Paris, ce qui en fait la capitale culturelle du monde, tout simplement. Et Antonin Artaud doit faire son petit bout de chemin parmi les artistes comme Pablo Picasso, Ernest Hemingway, Gertrude Stein et j'en passe. Et donc, pour cela, il envoie son premier recueil de poèmes qui s'appelle « Tric-trac du ciel » à Jacques Rivière, le directeur de la Nouvelle Revue Française. Et Jacques Rivière, en recevant ces poèmes, comprend la fibre artistique d'Artaud, mais il trouve qu'il y a une rigueur qu'il manque à ses poèmes et il se voit obligé de refuser à Artaud de c'est la publication de ces fameux poèmes. Et Artaud, alors, envoie une lettre à Jacques Rivière en lui expliquant pourquoi il est dans l'impossibilité d'atteindre cette fameuse rigueur. Il lui dit ceci. « Ma pensée m'abandonne à tous les degrés. Je suis à la poursuite constante de mon être intellectuel. Voilà encore pourquoi je vous ai dit que je n'avais rien, nulle part en suspens, les quelque chose que je vous ai présenté constituant les lambeaux que j'ai pu regagner sur le néant complet. » Lors donc, je peux saisir une forme, si imparfaite soit-elle, je la fixe, dans la crainte de perdre toute la pensée. Et là, Jacques Rivière comprend qu'il est en face d'un être singulier. C'est pas un artiste qui a une angoisse de la page blanche ou un manque d'inspiration, c'est quelqu'un, un être souffrant, qui a un empêchement de créer. Et au fur et à mesure de leur correspondance, il se rend compte que là où il n'arrive pas à avoir la rigueur pour faire ses poèmes, il trouve cette fameuse rigueur dans l'explication de son mal-être et qu'au final, dans cette explication, se dégage une certain sens artistique et que c'est ça la vraie valeur de ces correspondances.
D'ailleurs, c'est pourquoi cette correspondance sera publiée plus tard en fait, par la veuve de Jacques Rivière, Isabelle Rivière. Dans le même temps, on constate qu'Artaud fréquente beaucoup le milieu des surréalistes. Il se lie très vite d'amitié en fait avec André Breton, qui fréquente le centre neuropsychiatrique de Saint-Dizier, qui est dirigé par Monsieur Leroy, qui dirigera plus tard un autre établissement où sera interné Artaud en 39. Donc Breton, de cette expérience, tire plusieurs procédés d'écriture, notamment l'automatisme surréaliste.
En 1920, quand Artaud arrive donc à Paris, Pour subvenir à ses besoins, il joue dans des films et dans quelques pièces, mais il a toujours des rôles secondaires, il est l'homme à tout faire. Il fréquente beaucoup la bohème de Montmartre. Et les témoignages nous disent « Où est Monsieur Artaud ?» Il fallait aller le chercher très loin, jusque dans les environs de Paris. On avait du mal à le canaliser.
Où est Artaud ? Ben, tout simplement, il se trouve dans les cafés. Roger Blin nous explique par exemple qu'il se voyait tous les jours avec Artaud, enfin pratiquement, et qu'il se retrouvait au café de la Cloche, puis à celui de la Coupole. Il dit « On passait toute la nuit, 5 jours sur 7, sans dormir, ou à peu près. À 5 heures, après la fermeture, Artaud allait au Select, le premier café parisien ouvert jour et nuit. » Et donc, Artaud affectionnait ces cafés où il pouvait écrire et se reposer. On pense toujours à Artaud comme un être souffrant, et c'est le cas. Il a souffert de cette méningite, mais c'était aussi quelqu'un de très gai et de farceur. Par exemple, une femme avec qui il a une relation qui s'appelle Alexandra Pecker dit de Artaud qu'il était très gai. Elle dit ceci, qu'une fois, ils étaient dans la rue tard le soir et qu'ils furent arrêtés pour tapage nocturne. Et une fois au commissariat, l'officier demande à Artaud de retirer son chapeau. Ça correspondait à la période où Artaud faisait le rôle de frère Massieu dans La Passion de Jeanne d'Arc, et donc il avait une tonsure sur la tête. Et donc, pour cacher cette tonsure, il utilisait le chapeau. Il en avait honte, en quelque sorte. Et au moment où il a été obligé par l'officier, il a décidé d'en rire, il a retiré son chapeau, et il s'est mis à chanter tout en tapotant sur sa tête. Un mois ou deux plus tard, je ne me souviens plus exactement, lorsqu'il était avec André Breton pour manifester par rapport à un film qu'il trouvait trop réaliste, par exemple, il se promenait avec un énorme turban noir dont il laissait les pans traîner par terre, et il se promenait comme ça dans Montmartre. Et tout le monde le prenait pour un fou, et ça le faisait beaucoup rire.
Oui, d'ailleurs, c'est ce qui va séparer Breton et Artaud. C'est ce côté mystique qu'a Artaud, que n'apprécie pas André Breton. Il dira qu'il avait une voix mi-libertaire, mi-mystique, ce qui ne plaisait pas du tout à André Breton, qui lui voulait vraiment inscrire le surréalisme comme un mouvement durable. D'ailleurs, on peut dire que Antonin Artaud sera vite mis à l'écart de ce mouvement, alors qu'André Breton, lui, restera comme un ambassadeur, entre guillemets, de ce mouvement. Dans le même temps, Antonin Artaud commence à travailler avec le théâtre suite à l'exposition universelle et le théâtre Baliné, qui l'a notamment fortement inspiré. Il va commencer à tirer de ce spectacle qu'il a vu ses premières expériences qui le mèneront beaucoup plus tard au théâtre de la cruauté pendant un de ses internements. Il se nourrit principalement de l'expressionnisme allemand, du constructivisme russe, et il regrette que le théâtre de son époque, le théâtre français du moins de son époque, soit un des seuls qui n'a pas de correspondance avec les bouleversements que traversait la France à cette époque.
Effectivement, il souhaite un théâtre révolutionnaire, pas politique, mais pour l'esprit. Il s'intéresse aux mystères antiques du Moyen-Âge et leurs scènes choquantes. Il fréquente des voyantes, des sorcières, des thaumaturges et des médiums. Et donc il s'intéresse dans la danse balinaise à ce qu'il appelle la magie et la sorcellerie, qu'il considère comme un modèle de théâtre métaphysique.
L'alchimie, en fait, est au cœur de ses préoccupations sur le théâtre, puisque pour lui, la scène, c'est l'endroit où tout se joue et se transforme. Et donc ce théâtre est conçu comme l'équivalent d'une médecine, d'une gymnastique mentale et spirituelle qui vise à transformer l'homme au plus profond. Gebracht.
Avec moi, Dieu le chien et sa langue, qui comme un trait perce la croûte de la double calotte en voûte de la terre qui le démange. Et voici le triangle d'eau, qui marche d'un pas de punaise, mais qui sous la punaise en braise se retourne en coup de couteau. Sous les seins de la terre hideuse, Dieu la chienne s'est retirée. Des seins de terre et d'eau gelée qui pourrissent sa langue creuse. Et voici la Vierge au marteau, pour broyer les caves de terre dont le crâne du chien stellaire sent monter l'horrible niveau.
Docteur, il y a un point sur lequel j'aurais voulu insister. C'est celui de l'importance de la chose sur laquelle agissent vos piqûres, cette espèce de relâchement essentiel de mon être, cet abaissement de mon étiage mental, qui ne signifie pas, comme on pourrait le croire, une diminution quelconque de ma moralité ou même de mon intelligence, mais si l'on veut, de mon intellectualité utilisable, de mes possibilités pensantes, et qui a plus à voir avec le sentiment que j'ai moi-même de mon moi qu'avec ce que j'en montre aux autres. Cette cristallisation sourde et multiforme de la pensée qui choisit à un moment donné sa forme. Il y a une cristallisation immédiate et directe du moi au milieu de toutes les formes possibles de tous les modes de la pensée. Et maintenant, monsieur le docteur, que vous voilà bien au fait de ce qui en moi peut être atteint et guéri par les drogues, du point litigieux de ma vie, j'espère que vous saurez me donner la quantité de liquide subtil, d'agents spécieux, de morphine mentale capable d'exaucer mon abaissement, de rééquilibrer ce qui tombe, de réunir ce qui est séparé, de récomposer ce qui est détruit. Ma pensée vous salue.
Extrait de la vitre d'amour. Je la voulais miroitante de fleurs avec de petits volcans accrochés aux aisselles, et spécialement cette lave en amande amère et qui était au centre de son corps dressé. Il y avait aussi une arcade de sourcils sous lesquels tout le ciel passait, un vrai ciel de viol, de rapt, de lave, d'orage, de rage. Bref, un ciel absolument théologal, un ciel comme une arche dressée, comme la trompette des abîmes, comme de la ciguë bue en rêve. Un ciel contenu dans toutes les fioles de la mort, le ciel d'Héloïse au-dessus d'Abélard, un ciel d'amoureux suicide, un ciel qui possédait toutes les rages de l'amour. C'était un ciel de péché protestataire, un péché retenu au confessionnal de ces péchés qui chargent la conscience des prêtres, un vrai péché théologal. Et je l'aimais. Elle était bonne dans une taverne d'Hoffmann, mais une miteuse, crapuleuse boniche, une boniche crapuleuse et mal lavée. Elle passait les plats, vidait les lieux, faisait les lits, balayait les chambres, secouait les ciels de lit et se déshabillait devant sa lucarne, comme toutes les bonnes de tous les contes d'Hoffmann. Il me fallait maintenant trouver un moyen de m'aboucher avec la réalité. Ce n'était pas assez que d'être abouché avec la résonance obscure des choses et d'entendre par exemple les volcans parler, et de revêtir l'objet de mes amours de tous les charmes d'un adultère anticipé, par exemple, ou de toutes les horreurs, ordures, scatologies, crimes, tromperies qui s'attachent à l'idée de l'amour. Ce fut l'amour, comme une mère, comme le péché, comme la vie, comme la mort, l'amour sous les arcades, l'amour au bassin, l'amour dans un lit, l'amour comme le lierre, l'amour comme un mascaré. Il n'y eut bientôt plus qu'une immense montagne de glace sur laquelle une chevelure blonde pendait.
Thank you.
Nous sommes dans les années 20 et le cinéma est encore à ses débuts, à ses balbutiements. Les moyens techniques et d'expression ne sont pas encore développés, ils sont encore instables. En effet, on est encore loin de l'image 3D, mais nous sommes dans l'image en noir et blanc. Et le cinéma va commencer à émerger petit à petit. Il va devenir une expression artistique à part entière. À côté aussi, le cinéma étranger va se développer, le cinéma russe, allemand, les scènes américaines. Arto va s'intéresser de près au cinéma. Il va y apporter une grande attention. Donc, dans son texte « Sorcellerie et cinéma » écrit en 1927, il y déclare « Il y a dans le cinéma toute une part d'imprévu et de mystère qu'on ne trouve pas dans les autres arts. » Pour Arto, le vision du cinéma prend une forme psychique et s'apparente au domaine du rêve. Le cinéma est fait pour exprimer les choses de la pensée, l'intérieur de la conscience. On est dans le monde du fantastique, le monde de l'illusion, dans le monde de l'onirique. On peut aussi penser un petit peu au théâtre d'ombre, au théâtre de l'Asie. Donc même si on était dans le cinéma, au début du cinéma, on peut dire que Arto était un visionnaire pour la suite.
Il a joué dans 23 films différents, de 1923 à 1935. Antonin Artaud a collaboré avec les plus grands metteurs en scène de son époque. On peut noter Abel Gance, par exemple, avec qui il a travaillé 3 fois, comme Raymond Bernard. Donc avec Abel Gance, il a tourné dans le film Napoléon, par exemple. Antonin Artaud, il ne joue que des petits rôles, mais dans lesquels il excelle, grâce à son physique particulier et sa voix unique. On peut dire qu'Antonin Artaud a ce qu'on appelle une gueule. Il s'illustre notamment dans le film de Karl Dreyer, La Passion de Jeanne d'Arc, en interprétant le frère Massieu, qui est le frère qui la confesse avant qu'elle soit brûlée sur le bûcher. Antonin Artaud n'a pas tourné que dans des grands films, il a dû aussi faire des films dits alimentaires par nécessité. En 1928, il scénarise La coquille et le clergyman, qui amènera un conflit avec la réalisatrice Germaine Dulac, car elle n'a pas assez suivi la pensée surréaliste qu'Arto avait mis dans son scénario, et ça entraînera des perturbations lors de la première projection. Dans ce film, donc La coquille et le clergyman, on retrouve l'actrice Jenica Ataniazu. C'est une Roumaine que Arto a rencontrée 7 ans auparavant dans la troupe de Charles Dullin. Ils ont entretenu une relation amoureuse, notamment épistolaire. Jenica Ataniazu, on peut dire que c'est le grand amour d'Arto. Il écrira à son propos « C'est l'amour parfait, céleste que j'avais rêvé ». Dans cette relation épistolaire, il y a aussi des conflits. C'est un amour onirique, mais rempli de conflits, car Arto est dépendant à la drogue et Jenica lui reproche. Et Arto est aussi très jaloux. Il a failli blesser un prétendant au couteau de Jenica.
Le théâtre et la culture, extrait du théâtre et son double. Jamais, quand c'est la vie elle-même qui s'en va, on a autant parlé de civilisation et de culture. Il y a un étrange parallélisme entre cet effondrement généralisé de la vie qui est à la base de la démoralisation actuelle et le souci d'une culture qui n'a jamais coïncidé avec la vie et qui est faite pour régenter la vie. Avant d'en revenir à la culture, je considère que le monde a faim et qu'il ne se soucie pas de la culture, et que c'est artificiellement que l'on veut ramener vers la culture des pensées qui ne sont tournées que vers la faim. Nous avons surtout besoin de vivre et de croire à ce qui nous fait vivre, et que quelque chose nous fait vivre. Et ce qui sort du dedans mystérieux de nous-mêmes ne doit pas perpétuellement revenir sur nous-mêmes dans un souci grossièrement digestif. Je veux dire que s'il nous importe à tous de manger tout de suite, il nous importe encore plus de ne pas gaspiller dans l'unique souci de manger tout de suite notre simple force d'avoir faim. Si le signe de l'époque est la confusion, je vois, à la base de cette confusion, une rupture entre les choses et les paroles, les idées, les signes qui en sont la représentation. Ce ne sont certes pas les systèmes à penser qui manquent. Leur nombre et leurs contradictions caractérisent notre vieille culture européenne et française. Mais où voit-on que la vie, notre vie, ait jamais été affectée par ces systèmes ?
Le jet de sang, une pièce de M. Antonin Artaud, d'après une autre pièce de M. Armand Salacrou.
Le jeune homme.
La jeune fille.
Le chevalier.
La nourrice.
Le bedeau.
Le prêtre.
La maquerelle.
Je t'aime et tout est beau.
Tu m'aimes et tout est beau.
Je t'aime et tout est beau.
Tu m'aimes et tout est beau.
Je t'aime. Mets-toi en face de moi.
Voilà.
Je t'aime. Je suis grand, je suis clair, je suis plein, je suis dense.
Nous nous aimons.
Nous sommes intenses. Ah, que le monde est bien établi.
Un silence. On entend comme le bruit d'une immense roue qui tourne et dégage du vent. Un ouragan les sépare en deux.
À ce moment, on voit deux astres qui s'entrechoquent et une série de jambes de chair vivante qui tombent avec des pieds, des mains, des chevelures, des masques, des colonnades, des portiques, des temples, des alambics qui tombent, mais de plus en plus lentement, comme si tombaient dans du vide. Puis trois scorpions, l'un après l'autre, et enfin une grenouille et un scarabée qui se dépose avec une lenteur désespérante, une lenteur à vomir.
Le ciel est devenu fou. Sortons en courant.
Il pousse la jeune fille devant lui et entre un chevalier du Moyen-Âge avec une armure énorme et suivi d'une nourrice qui tient sa poitrine à deux mains et souffle à cause de ses seins trop enflés.
Laisse là tes mamelles. Donne-moi mes papiers. Merde. Qu'est-ce qui te prend ?
Notre fille, là, avec lui !
Il n'y a pas de fille ! Chut !
Je te dis qu'ils se baisent !
Qu'est-ce que tu veux que ça me foute qu'ils se baisent ?
Inceste !
Matrone !
Souteneur !
Fiotte ! Laisse-moi manger !
La nourrice s'enfuit. Alors il se relève et de l'intérieur de chaque papier, il tire une énorme tranche de gruyère. Tout à coup, il tousse et s'étrangle.
Montre-moi tes seins ! Montre-moi tes seins ! Où est-elle passée ?
Il sort en courant. Le jeune homme revient.
J'ai vu, j'ai su, j'ai compris. Ici, la place publique, le prêtre, le savetier, les quatre saisons, le seuil de l'église, la lanterne du bordel, les balances de la justice, je n'en puis plus.
Un prêtre, un cordonnier, un bedeau, une maquerelle, un juge, une marchande des quatre saisons arrivent sur la scène comme des ombres.
Je l'ai perdue, rendez-la moi.
Qui ?
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 Ma femme !
Votre femme ? Pouah ! Un farceur !
Farceur ? C'est peut-être la tienne ?
C'est peut-être vrai ? Il sort en courant. Le prêtre se détache du groupe à son tour et passe son bras autour du cou d'un jeune homme.
À quelle partie de son corps faisiez-vous le plus souvent allusion ?
À Dieu.
Le prêtre, décontenancé par la réponse, prend immédiatement l'accent belge.
Mais ça ne se fait plus. Nous n'entendons pas cette oreille. Il faut demander ça au volcan, au tremblement de terre. Nous autres, on se repaît des petites saletés des hommes dans le confessionnal. Et voilà, c'est tout. C'est la vie.
Ah voilà, c'est la vie. Eh bien, tout fout le camp.
Ben oui.
À cet instant, la nuit se fait tout d'un coup sur la scène. La terre tremble, le tonnerre fait rage avec des éclairs qui zigzaguent en tous sens. Et dans les zigzags des éclairs, on voit tous les personnages qui se mettent à courir et s'embarrassent les uns dans les autres, tombent à terre et se relèvent encore et courent comme des fous.
À un moment donné, une main énorme saisit la chevelure de la maquerelle qui s'enflamme et grossit à vue d'œil.
Chien ! Regarde ton corps !
Le corps de la maquerelle apparaît absolument nu et hideux sous le corsage et la jupe qui deviennent comme du verre.
Laisse-moi ! Dieu ! Elle mord Dieu au poignet. Un immense jet de sang lacère la scène et on voit au milieu d'un éclair plus grand que les autres le prêtre qui fait le signe de la croix.
Quand la lumière se refait, tous les personnages sont morts et leurs cadavres gisent de toutes parts sur le sol. Il n'y a que le jeune homme et la maquerelle qui se mangent des yeux. La maquerelle tombe dans les bras du jeune homme.
« Racontez-moi comment ça vous est arrivé !» Le jeune homme se cache la tête dans les mains. La nourrice revient, portant la jeune fille sous son bras comme un paquet. La jeune fille est morte. Elle la laisse tomber à terre, où elle s'écrase et devient plate comme une galette.
La nourrice n'a plus de sein. Sa poitrine est complètement plate. À ce moment, débouche le chevalier, qui se jette sur la nourrice et la secoue véhémentement.
« Où les as-tu mis ? Donne-moi mon gruyère !»«
Voilà !» Elle lève ses robes. Le jeune homme veut courir, mais il se fige comme une marionnette pour se fuir.
Ne fais pas de mal à maman.
Maudite !
Il se voile la face d'horreur. Alors une multitude de scorpions sortent dessous les robes de la nourrice et se mettent à pulluler dans son sexe, qui enfle et se fend, devient vitreux et miroite comme un soleil.
Le jeune homme et la maquerelle s'enfuient comme des trépanés.
La Vierge ! Ah ! C'était ça qu'il cherchait !
Rideau.
Sur ce cri d'Antonin Artaud, cri de vie, cri de souffrance aussi, se termine cette première partie de l'émission à lui consacrée qui a été enregistrée aujourd'hui même à la salle de répétition de la Vignette à l'université Paul-Valéry de Montpellier avec tout un groupe d'élèves de licence 2 de théâtre, Maëlle Arsan, Mathis Ascola, Marion Bacci, Karen Bella, Marie-Lou Bourgeot, Naomi Cabalol, Yannick Cotten, Alice de Rességuier, Guillaume Flamin, Guillaume Foy, Solène Hervé, Maïna Ledantec, Jonathan Mallard, Marie-Sophie Moret, Jeanne Pelletier, Rebecca Pierrot, Nanny Portante, Jean Chabel, Claire Taillefer, Eddie Terrain, Mélanie Tverder-Avilès et Louise Vincent. Je vous demande de les applaudir pour leur travail. Merci. J'ai préparé cette émission également avec Christian Boisson qui est à mes côtés. Le jet de sang était enregistré par l'unité audiovisuelle de l'université Paul-Valéry et à la technique, nous avions Arnaud Rofast et Sébastien Christol, les techniciens de Radio Campus qui sont les partenaires de cette émission. Merci. Vous pouvez donc écouter cette émission sur Radio Campus, sur Radio Aviva et Radio Clapas, et également en écoute permanente en archive sur le site www.michelarbatz.com. À bientôt.